Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'église qui se rassemble au quai de la Pie. Et si je précise, église qui se rassemble au quai de la Pie, c'est pour nous distinguer de notre église voisine, l'église du CEP Saint-Maur. Parce qu'il se trouve que quand on dit église de Saint-Maur, eh bien eux aussi disent église de Saint-Maur de leur côté. Et donc pour ne pas créer de confusion, eh bien nous pourrions appeler notre église, par exemple, l'église de la Pie. Bon, c'était juste une parenthèse. Effectivement, comme l'a dit Alain, après avoir loué notre roi, nous nous mettons à présent à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa parole telle que nous l'avons lue à l'instant. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ce texte de Colossiens 2 m'a demandé un peu plus de temps que d'habitude, m'a donné du fil à retordre à cause de certaines difficultés. En effet, certains versets sont sujets à diverses interprétations, de telle sorte qu'il fallait essayer de trancher dans un sens ou dans un autre. Et malgré ces difficultés, je crois que l'essentiel est tout de même préservé et que nous serons d'accord sur le message central de notre texte. L'apôtre Paul connaît la situation des Colossiens. Même s'il n'est pas le fondateur de cette église, même s'il n'a jamais rencontré ces chrétiens, il se préoccupe de la santé spirituelle de cette église. Et bien qu'ayant accepté l'évangile, eh bien les chrétiens de Colosse se trouvent influencés par d'autres enseignements, des enseignements qui circulaient à ce moment-là, qui mettaient en avant la tradition des hommes, qui mettaient en avant des règles à suivre, une sorte de religion alternative qui n'avait plus grand-chose à voir avec la foi chrétienne. Et Paul cherche à montrer à ses destinataires qu'ils n'ont pas besoin de ça. Car en Christ, ils ont tout. Voilà la réponse que Paul oppose à ces enseignements trompeurs. Et si cela était vrai pour les chrétiens de Colosse au 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien cela est aussi vrai pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour nous qui sommes rassemblés cet après-midi. En Christ, nous avons tout pleinement. Notre salut, bien sûr, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour vivre notre vie chrétienne. Tout ce qui est nécessaire pour grandir spirituellement. En Christ, nous avons tout. Et nous allons regarder de plus près comment Paul argumente dans ce sens. Et son intention, comme vous l'avez entendu, son intention est de mettre en garde les Colossiens contre ceux qui se vantent de pratiques aux allures spirituelles et qui sont pourtant à l'opposé de l'Évangile. Mais avant cette mise en garde, eh bien Paul commence par une exhortation. Alors comme je n'aurai pas j'ai la télécommande, je vais suivre. Alors avant notre texte, Paul vient d'évoquer le ministère que Dieu lui a confié, à savoir annoncer Christ aux païens, à savoir évangéliser les païens. Et vous avez ici sous les yeux le verset 28 du chapitre 1 qui pourrait résumer cette mission de Paul. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. Et Paul se réjouit même en sachant que les Colossiens ont une foi ferme en Christ. C'est ce que nous voyons, par exemple, dans Colossiens chapitre 2, verset 5. Paul se réjouit que les Colossiens aient une foi ferme en Christ. Et pourtant, c'est précisément à ces Colossiens qui ont une foi ferme que Paul dit ce qui suit, verset 6. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. L'impératif qui nous intéresse en particulier est le premier, marchez en lui. Paul exhorte ces chrétiens qui ont déjà la foi à marcher, c'est-à-dire à mener une vie qui soit conforme à ce qu'ils sont maintenant. Ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, qu'ils reconnaissent comme le Seigneur. Ils sont unis à lui par la foi. Ils sont en Christ. Ils doivent donc continuer à vivre selon le Seigneur, conformément à leur foi ferme. En tant que chrétiens, leur vie est désormais liée à Christ. Prenons l'exemple typique du mariage. Après leur mariage, l'homme et la femme vivent ensemble. La vie de célibataire que l'un et l'autre avaient auparavant prend fin dès lors que l'alliance est conclue. Le couple marié partage désormais une vie commune. De même, en recevant Christ, en reconnaissant qu'il est le Seigneur, les chrétiens ne peuvent plus choisir de vivre sans lui. Ce serait incohérent par rapport à leur engagement de départ. C'est comme si dans un couple, eh bien, l'un et l'autre décidaient de ne pas habiter ensemble alors qu'ils sont mariés. D'où les quatre verbes qui suivent au verset 7, qui ne sont pas en réalité d'ailleurs dans le texte grec des impératifs, mais des participes, en lien avec l'exhortation principale de marcher en lui. Regardez ces verbes. « Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Notre fondement ne doit se trouver nulle part ailleurs qu'en Christ. La vie chrétienne se développe à partir de Christ. Il s'agit de dépendre de lui pour grandir spirituellement. Et nous n'avons pas à inventer quoi que ce soit pour grandir spirituellement. Tout se trouve dans les instructions de Christ que nous avons dans la parole de Dieu. Et remarquez d'ailleurs que les Colossiens doivent être affermis dans la foi, telle qu'elle a été transmise. Et comprenez ici le mot « foi » dans le sens « le contenu de la foi ». Les Colossiens doivent être affermis dans ce qu'ils croient, dans les vérités qui leur ont été enseignées, dans l'évangile qui leur a fait connaître Jésus-Christ. Il s'agit de rester attaché fermement, de rester fermement sur ce qui a été enseigné, au message invariable de l'évangile. Et vous voyez ici le lien étroit entre le fait d'être enraciné, d'être fondé en Christ, et le fait de rester fermement attaché à ce qui a été enseigné à son sujet. Les deux vont ensemble. Et la marche chrétienne n'est pas moins que cela. Suivons encore la logique de l'apôtre Paul ici. Si les chrétiens demeurent, sont ancrés dans l'enseignement qui concerne Christ, ils ne tarderont pas à exprimer leur reconnaissance. C'est ce que nous voyons à la fin du verset 7. Dans d'autres traductions, l'accent est mis sur le fait d'être débordant de reconnaissance, abondé, une autre traduction qui propose abondé en actions de grâce. Quand le chrétien construit sa vie sur Christ, quand le chrétien repense à qui est Christ, à ce qu'il a accompli, il ne finit pas d'être reconnaissant. L'inverse est vrai. Si un chrétien s'éloigne de Christ, sans être imprégné des enseignements qui le concernent et qui sont contenus dans sa parole, eh bien, il en arrive à être pauvre en reconnaissance. Je n'insisterai jamais assez dans cette église et dans toutes les églises sur l'importance pour nous de nous asseoir, d'ouvrir la parole de Dieu, de nous émerveiller de ce qu'elle dit à propos de Christ, de ce qu'il a fait pour nous, des répercussions éternelles sur notre vie. L'importance pour nous de nous imprégner de ces vérités qui sont invariables. Depuis 2000 ans, c'est invariable. Et si Dieu touche notre cœur en nous montrant tout l'amour que Jésus a eu pour nous, en nous montrant l'immense salut que nous recevons par grâce, comme nous l'avons chanté. Vous savez ce qui arrive dans ces moments-là? Si nous sommes touchés par Dieu de cette manière-là, Paul le dit ici, nous exprimerons notre reconnaissance à Dieu. Et je crois à ce que Paul dit ici, ce qu'il dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je pense que si parfois notre cœur est vide de reconnaissance, que nous n'arrivons pas à exprimer des prières de reconnaissance, c'est parce que nous ne sommes pas affermis dans ce que nous croyons. Ce que nous croyons a peu d'impact sur nous. Nous le croyons, mais ça ne change rien. Or, pour marcher en Christ, pour être enracinés en lui, nous n'avons pas d'autre choix que de passer du temps dans la lecture, dans l'étude, dans la méditation de la parole qui nous révèle Christ. Nous n'avons pas d'autre choix. Et si nous pensons que cela est optionnel, eh bien nous nous trompons de christianisme. Notre privilège, d'ailleurs, est encore plus grand que celui des Colossiens, parce que nous avons l'ensemble du Nouveau Testament. L'ensemble du Nouveau Testament pour nous expliquer l'Évangile. Comment voulons-nous vivre une vie chrétienne sans connaître Christ, sans connaître ses instructions, sans comprendre que son salut est plus grand que ce que nous imaginons? Et nous ne pouvons pas connaître Christ sans ouvrir la parole, sa parole. Et si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas marcher en lui. Est-ce que vous voyez la logique de notre texte? Heureusement, Paul va évoquer dans la suite cette grande vérité. Et nous avons besoin de les connaître. Nous avons besoin de les comprendre et nous avons besoin de savoir ce que cela implique dans notre vie en tant que chrétien. Et après cette exhortation générale, eh bien Paul, qui se préoccupe des Colossiens, les met en garde. Souvent, l'apôtre Paul envoie des lettres aux églises pour les avertir contre des enseignements erronés, pour les avertir qu'il y a des fausses doctrines qui circulent et qu'il ne faut pas les écouter, pour les avertir qu'il y a des mensonges qui circulent pour les détourner de l'Évangile. Et c'est également le cas pour l'épître aux Colossiens. Et cela nous rappelle que les chrétiens ne sont pas intouchables. Nous sommes des êtres influençables. Et lorsque nous cessons de marcher en Christ, lorsque nous perdons de vue ce pourquoi nous étions prêts à donner notre vie pour lui, nous devenons une proie facile. Alors ne passons pas trop vite sur les avertissements bibliques, mais laissons-nous avertir. Verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Alors Paul ici ne s'attaque pas à la philosophie de Platon ou d'Aristote, telle que nous pouvons l'étudier au lycée. Le mot philosophie ici a un sens plus large pour désigner un courant de pensée, un système religieux. Et Paul n'hésite pas à dire que ce qu'on enseigne à ce moment-là aux Colossiens est une tromperie, sans fondement, vide, ou du moins qui a pour fondement la tradition des hommes. Alors, il y a toute une discussion pour savoir ce qu'on entend par les principes élémentaires. Et si j'ouvre la discussion, ce serait trop long, et donc je vais m'arrêter là. Mais retenons juste que, par rapport à cette philosophie qui est présentée ici par Paul, eh bien les spécialistes eux-mêmes ne parviennent pas à déterminer à quel système religieux de l'époque cela pouvait correspondre. Il semblerait que ça soit plutôt un mélange de différentes philosophies, religions, mélangées avec des pratiques juives. Et tout cela, on va le voir un peu plus loin aussi. Dans tous les cas, suivre cette philosophie, ce courant de pensée, c'est s'éloigner de Christ. C'est pourquoi Paul avertit les Colossiens qui seraient tentés de se laisser séduire par ce genre de sagesse. Et Paul ne se contente pas simplement de mettre en garde, mais il donne la raison pour laquelle il ne faut pas se laisser prendre au piège par de tels enseignements. Verset 9, « En effet, c'est en lui, Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La raison pour laquelle il ne faut pas suivre d'autres philosophies est qu'en Christ, il y a déjà tout ce qu'il leur faut. En ce qui concerne la divinité, il ne manque rien à Jésus-Christ. Dieu avec un corps d'homme n'est pas un Dieu diminué, c'est Dieu tout court. Le miracle de l'incarnation est que Jésus est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Et seul lui peut avoir ces deux natures. Et peut-être que les Colossiens cherchaient quelque chose de plus que Christ. Quelque chose qui les comblerait en plus de Christ. Du moins, on les incitait dans cette direction. Et Paul, eh bien, répond à cela en leur montrant que s'ils ont Christ, ils sont comblés. Vous avez tout pleinement en lui. Et Paul ajoute, lui qui est le chef, littéralement la tête de toute autorité spirituelle. Et plus loin d'ailleurs au verset 15, il parlera de la victoire de Christ sur ses dominations et sur ses autorités. Et on peut supposer que si Paul mentionne cela ici, c'est peut-être parce que les Colossiens, encore influencés peut-être par ce qui reste de leur passé, avaient une crainte à l'égard des puissances spirituelles, comme leurs contemporains. Et peut-être que justement c'était un reste de leur vie passée, un reste de leur croyance passée. Or désormais, ils sont en Christ, ils sont en celui qui est supérieur à ces puissances. Donc, ils n'ont rien à craindre. Et à partir du verset 11, eh bien, Paul va montrer aux Colossiens à quel point ils ont tout en Christ. Et ce sont ces grandes vérités que les Colossiens avaient besoin d'entendre. Et de la même manière, ce sont ces grandes vérités que nous avons besoin d'entendre et de comprendre. Verset 11, c'est en lui aussi, en Christ, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Lorsque Paul utilise l'expression « en lui » ou « avec lui », il fait référence à l'union avec Christ. Et il nous faut évoquer ce que nous entendons par là. Et pour faire simple, j'ai repris une définition d'un professeur de théologie qui dit que l'expression « union avec le Christ » désigne l'unité ou la relation qui lie le croyant au Christ. Grâce au Saint-Esprit et par la foi, en vertu de laquelle les croyants prennent part aux bienfaits du salut. Autrement dit, l'union avec Christ désigne cette relation particulière que nous avons avec Christ, de telle sorte que tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il a accompli, eh bien, nous permet de pouvoir en tirer des bénéfices, parce que nous sommes précisément unis à lui. Une autre définition, ou en tout cas ce que Jean Calvin, le réformateur, écrit à ce sujet, il est clair que tant que nous ne sommes pas à Christ, tout ce qu'il a fait ou souffert pour le salut des hommes est dépourvu de sens et d'utilité pour nous. Pour que nous bénéficions des biens dont le Père l'a comblé, il faut que nous soyons à lui et qu'il habite en nous. C'est pourquoi Jésus-Christ est nommé notre chef et le premier-né de nombreux frères. Il est également indiqué, ailleurs, que nous avons été greffés sur lui et que nous avons revêtu Christ. Cependant, rien de ce qu'il possède n'est nôtre, comme nous l'avons dit, tant que nous ne sommes pas un avec lui. La doctrine de l'union avec Christ est une doctrine qui mérite d'être approfondie. Des livres entiers sont écrits à ce sujet. Et personnellement, j'estime en connaître si peu. Mais quand je parlais d'être affermi dans ce qui nous a été enseigné, cela comprend aussi ce que je suis en train d'évoquer. De comprendre précisément en quoi consiste cette union avec Christ et pourquoi cela change ma vie, toute ma vie et toute mon éternité. Avec les affirmations de Paul, nous pouvons voir combien cette union est merveilleuse pour les chrétiens. Et j'aimerais, à partir du texte, simplement énoncer les quelques privilèges que Paul donne aux Colossiens. Alors, je vais juste boire un petit peu parce que je m'assèche. Premièrement, on peut revenir au texte. Premièrement, Paul fait allusion à la circoncision, non pas physique, mais ce qui se passe en réalité au niveau du cœur. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la circoncision du cœur. Dans d'autres textes bibliques, notamment dans le Deutéronome, il en est question. De quoi parle-t-on ici ? Ce que Dieu ôte, ce n'est pas un bout de chair, mais c'est ce qui est plus profond et que l'homme ne pourrait pas enlever de lui-même. Dieu, en fait, par cette circoncision, nous détache du péché. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère cette transformation, en nous débarrassant peu à peu de ce qui se rattache au péché dans notre nature. De telle sorte que nous devenons une nouvelle créature. Voilà pour la circoncision. Deuxièmement, il est question du baptême ici. Le baptême, c'est l'acte qui suit la conversion. Une fois qu'un chrétien se convertit, se tourne vers Christ, eh bien, il se fait baptiser derrière. Et le baptême, bien sûr, montre en image ce qui se passe intérieurement. Et vous voyez ce qui est associé au baptême ici. Paul évoque l'ensevelissement et la résurrection de Christ. En quoi avons-nous été ensevelis avec Christ ? C'est-à-dire mis au tombeau avec Christ ? Eh bien, en étant unis à lui, ce qui caractérisait notre ancienne vie meurt avec lui. Ce qui faisait notre ancienne vie meurt avec lui. C'est en cela que nous sommes ensevelis avec lui. Et en quoi sommes-nous ressuscités avec lui ? Eh bien, le baptême exprime aussi cette réalité que nous avons embrassé une nouvelle vie, celle même que Christ nous donne. Et je pense que nous ne sommes pas habitués à nous exprimer ainsi, mais nous pouvons le faire, que nous avons été ensevelis avec Christ et que nous avons été ressuscités avec lui. Mais je pense que si nous n'avons pas l'habitude de le dire, c'est parce que nous ne le comprenons pas. Alors, je vous encourage encore, c'est un peu mon leitmotiv, approfondissons cela. Si Paul écrit cela, s'il adresse cela aux Colossiens, c'est pour qu'ils puissent comprendre ces vérités. Et de même, on a besoin de comprendre cela. Et Paul souligne également, troisièmement, ce contraste fort. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, vous qui étiez loin de Dieu, vous qui étiez spirituellement morts, eh bien, Dieu est intervenu pour vous donner la vie. C'est Christ qui vous a procuré le droit à la vie. De quelle manière ? Par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Et vous remarquez que dans tout ce que Paul décrit, eh bien, les verbes sont au passif. En lui, vous avez été circoncis. Vous avez été ensevelis avec lui. Vous êtes ressuscité en lui et avec lui. Nous recevons tous ces bénéfices parce que Dieu a bien voulu œuvrer en notre faveur. Nous ne sommes pas actifs dans tout cela. Nous le recevons par grâce. C'est ce que nous recevons lorsque nous sommes unis avec Christ. Et maintenant, Paul se concentre sur un autre privilège à la fin du verset 13. Et c'est vrai que nous avons l'habitude de l'entendre, de le chanter, de le prier. Mais encore une fois, essayons de comprendre combien c'est un privilège. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Ce n'est pas certaines fautes. Ce n'est pas les fautes du passé, c'est toutes les fautes. Je suis sûr qu'à cet instant, si je vous demandais, repensez à une des fautes que vous avez commises il n'y a pas très longtemps. Vous allez sans doute penser à une faute. Et vous lisez à la fin de ce verset 13, « Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Et vous pouvez faire cet exercice tous les jours. En vous rappelant cela, « Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Paul se concentre là-dessus pour nous dire que Dieu nous a fait grâce au lieu de nous condamner. Dieu est totalement juste s'il condamne quelqu'un qui pèche contre lui. Dieu est totalement juste. Mais Dieu est aussi totalement juste quand il nous fait grâce à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et nous nous rendons compte que, en ce qui nous concerne, Dieu ne nous condamne pas, mais il nous fait grâce. Il a pardonné toutes nos fautes. Et voici de quelle manière, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que nous comprenons là ? Que envers le Dieu juste, les hommes ont contracté une dette à cause de leur péché. C'est ce que symbolise l'acte rédigé contre nous. Un acte qui dit que nous sommes coupables, que nous devons une dette à Dieu. Bien sûr, il y a un aspect symbolique ici. Et à la croix, eh bien, à la croix, Jésus a été cloué sur cette croix. Et la justice de Dieu a été satisfaite. Ce document qui réclamait notre dette a été effacé, annulé. Si vous savez ce qu'est une dette, vous savez ce que c'est aussi d'enlever cette dette. Ce que ça représente de ne plus avoir de dette. Si vous imaginez que une situation où vous devez une forte somme d'argent à quelqu'un et que finalement cette personne vous dit « Non, il n'y a plus besoin de me rembourser. » Vous comprenez ce que c'est qu'une remise de dette. Eh bien ici, c'est ce qui se produit. À la croix, la dette est effacée. La croix est le lieu où notre dette a été payée par la mort du seul juste. Et de plus, eh bien, par la croix, Dieu est décrit à la manière d'un général victorieux qui a ôté aux puissances spirituelles et mauvaises ce qui faisait leur force. Vous voyez comment c'est décrit ? Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ces puissances sont humiliées comme des chefs vaincus qui suivaient à l'époque honteusement le général vainqueur dans sa parade triomphale. C'est ce qui se passait pour les généraux romains. Ils défilaient dans la ville, et derrière eux, il y avait ceux qui avaient été vaincus. Eh bien, c'est cette image qui est employée ici. À la croix, c'est ce qui se passe. Les puissances mauvaises, les puissances spirituelles sont humiliées publiquement. Pourquoi publiquement ? Parce que la croix est publique. À la croix, le diable perd son pouvoir d'accusation à l'égard de celles et ceux qui sont au bénéfice du sacrifice de Jésus. Voilà des êtres humains que le diable ne peut plus accuser. Voilà pourquoi il y a victoire sur le diable. Le diable perd tout pouvoir d'accusation sur les enfants de Dieu. Plus personne ne peut réclamer notre condamnation, car Christ a été puni à notre place. Le diable ne peut pas réclamer notre condamnation. Et ce que Christ a accompli est donc pleinement suffisant pour nous sauver. Et en ce sens, eh bien, en Christ, nous avons tout, nous sommes comblés. Souvenez-vous ce que je viens de dire tout à l'heure, à la fin du verset 13, il a pardonné tous nos péchés. Nous sommes comblés. Qu'est-ce qui reste encore à pardonner ? En Christ, nous avons tout. Il ne manque rien à notre salut. L'œuvre de Jésus est suffisante. Et ces vérités, en rapport avec notre union à Christ, ne suscitaient-elles pas notre reconnaissance envers Dieu ? Par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, est-ce qu'on n'est pas un peu plus reconnaissant maintenant ? Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter ce chant.
Thank you.
Je repose ma question, est-ce que les vérités que nous avons vues en rapport avec notre union à Christ ne suscitent-elles pas notre reconnaissance envers Dieu? Ton sang efface mon péché. Et Paul a montré donc aux Colossiens la raison pour laquelle ils ne doivent pas suivre d'autres courants de pensée, aux allures spirituelles. Ils ont tout pleinement en Christ, par qui Dieu a pardonné tous leurs péchés. Voyons maintenant, dans une dernière partie, ce que cela implique pour eux, avant de voir ce que cela implique pour nous. À cause de tout ce que Paul a déjà dit, eh bien, voici ce qu'il dit par la suite, verset 16. Que personne donc, par rapport à ce que je viens de dire, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Sans doute que certains dans l'entourage des Colossiens voulaient mettre un accent particulier sur les lois de l'Ancien Testament, concernant les règles alimentaires, concernant les fêtes et les jours à respecter. Sans doute qu'ils mettaient un peu la pression sur les Colossiens qui avaient mis leur foi en Christ. Eh bien, Paul suit toujours le même raisonnement. Si les Colossiens ont Christ, eh bien, ils ont déjà la réalité. Pourquoi s'intéresser à l'ombre ? Les commandements au sujet de tous ces aspects qui sont contenus dans l'Ancien Testament ont un caractère qui était préparatoire jusqu'à la venue de celui qui devait accomplir toute la loi. Désormais, puisque Jésus est venu, puisque la réalité est là, puisqu'il a fait tout ce que le Père voulait, eh bien les chrétiens n'ont plus besoin de retourner à l'ombre, à ces règles pour obtenir la faveur de Dieu. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, non pas se tourner vers des règles, mais se tourner vers Christ. Si nous avons tout en Christ, si nous sommes déclarés justes grâce à lui, qui peut encore nous juger? Qui peut encore nous condamner ou prétendre que nous sommes disqualifiés dans notre marche avec le Seigneur? Qui peut prétendre cela? C'est pour cela que nous lisons au verset 18 que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Paul dévoile le véritable visage de ceux qui veulent égarer les Colossiens. Ces gens-là, ce qu'ils aiment, c'est ce qui a trait à l'humilité. Mais en fait, c'est l'orgueil qui les caractérise. Ils se plient à des règles pour des expériences spirituelles qu'ils recherchent, telles que les visions ou le culte des anges, nous dit-on. Mais vous notez le problème qui les concerne. Est-ce que vous voyez le problème qui les concerne? Verset 19, ils ne s'attachent pas à celui qui est la tête. Ils cherchent des visions, mais ils ne s'attachent pas à celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Et Paul développe en disant, Christ est la tête, oui, la tête du corps qui dépend de lui pour croître. Et de quoi parle-t-on quand on parle du corps de Christ? Bien sûr, on parle de l'Église. Paul rappelle ici une vérité que nous devons retenir aussi pour notre Église. L'Église grandit si l'Église est en Christ. Si l'Église grandit à partir de Christ, à partir de la tête. Si nous cherchons d'autres moyens, d'autres spiritualités, si nous cherchons des visions comme ces gens ici, mais sans chercher Christ, nous n'allons pas grandir comme Dieu le veut. Et en tout cas, cette croissance ne viendrait pas de Dieu. Malheureusement, certains chrétiens comptent plus sur leur programme spirituel que sur Christ. Et en comptant plus sur leur propre discipline, ils finissent par s'éloigner de celui seul qui les rapproche de Dieu. Et je pense que les chrétiens tombent dans cet écueil quand ils recherchent des expériences spirituelles, mais au détriment de celui qui est la tête. Ils veulent voir des visions. Ils s'astreignent à des privations en vue d'expériences plus fortes. Mais je vais vous raconter une actualité qui est particulièrement effroyable. Je l'ai lu il y a quelque temps de cela. Au Kenya, on a retrouvé des corps, des cadavres. Et parmi ces cadavres, il y avait des enfants, beaucoup d'enfants. Et il semble que tous ces cadavres, eh bien, sont ceux de membres qui appartiennent à une secte, dont le responsable, qui se disait pasteur, prétendait qu'il fallait jeûner pour rencontrer Jésus. Jeûnez et vous allez rencontrer Jésus. Ce que certains ont fait, ce que certains ont appliqué jusqu'à la mort. C'est terrible de suivre de tels enseignements, si loin de l'Évangile. Et pourtant, voilà une discipline, jeûner. Ça a l'air spirituel. On se prive de quelque chose pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais ça conduit à quoi ? À la mort. Nous avons un exemple dans l'actualité. Et dans les derniers versets que je relis, l'idée est similaire, versets 20 à 23. « Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire. » Pensez à l'exemple que je viens de donner. « De l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. » Les chrétiens de Colosse n'ont pas besoin d'adopter une discipline ascétique, de se priver de choses, parce que finalement, en pratiquant cela, cela conduit simplement à un seul but, une satisfaction personnelle. Trop mettre l'accent sur la discipline personnelle revient à alimenter notre orgueil. Voyez comment je jeûne. Voyez comment je prie. Des heures et des heures. Mais si tout cela n'est pas centré sur Christ, qui est satisfait dans l'histoire ? Dieu ou nous-mêmes ? Nous courons le risque d'être fiers à cause de notre discipline. Et Paul souligne combien ces enseignements sont d'origine humaine. Ceux qui les suivent ne gagneront pas de faveur spéciale auprès de Dieu. Mais avouons-le, nous avons tellement envie de faire au lieu de nous reposer sur ce que Jésus a déjà parfaitement fait. Nous avons tellement envie de réaliser quelque chose que par notre propre discipline, oui, j'arrive à m'approcher de Dieu. Mais de qui a-t-on besoin pour nous approcher de Dieu ? Dites-le-moi. Nous avons besoin de Christ. C'est par Christ que nous avons la faveur de Dieu. Et rien de ce que nous pouvons faire n'y ajoute quoi que ce soit. Je sais que j'ai déjà dit ce genre de choses à plusieurs reprises. Mais combien on a besoin que cette vérité reste ancrée en nous, que nous soyons affermis dans ce qui nous a été enseigné. Rien de ce que nous faisons n'y ajoute quoi que ce soit pour obtenir la faveur de Dieu. Christ a déjà tout fait. Et nous devons toujours considérer que l'œuvre de Jésus-Christ suffit. Pour nous approcher de Dieu, nous ne nous appuyons pas sur des règles à suivre. Nous avons seulement besoin de Christ. Cela ne signifie pas que nous pouvons vivre comme bon nous semble. Ce n'est pas du tout ce que Paul enseigne. D'ailleurs, la suite de notre texte que vous avez étudié cette semaine révèle bien que la vie chrétienne est tout sauf une vie où nous faisons comme bon nous semble. Ne nous laissons pas tromper par des enseignements qui nous vendent du plus. Si tu fais ça, tu vas t'approcher plus de Dieu. Un pasteur disait à propos des chrétiens qui en voulaient plus dans leur vie chrétienne, qu'ils étaient en même temps particulièrement vulnérables à ceux qui voulaient leur promettre plus. Autrement dit, à des enseignants qui sont prêts à leur dire « Voyez, vous voulez plus ? Allez dans cette direction-là. » Eh bien, c'est exactement la situation des Colossiens. Et je vais vous donner un exemple personnel. Il y a 15 ans de cela, je voulais plus. Dans ma vie chrétienne, je voulais être plus consacré, plus spirituel, plus proche de Dieu. Et c'est là que j'ai entendu des prédications où, justement, on me promettait plus. Et pour ne pas trop m'étendre là-dessus, le pasteur en question, qui enseignait à ce moment-là, effectivement, faisait part de sa discipline personnelle. Lui qui, notamment, se levait à 4 heures du matin pour prier. Alors, pour une raison spirituelle, parce que, selon des textes, en s'appuyant sur des textes bibliques, il va démontrer que le monde spirituel, notamment les forces mauvaises, eh bien, sont actives particulièrement avant le lever du soleil. Et donc, eh bien, pour pouvoir contrecarrer ces forces spirituelles, il faut pouvoir prier avant le lever du soleil, donc vers 4 heures. Ça a l'air convaincant. On vous propose du plus, là. Et figurez-vous que c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je me lève à 4 heures et je prie. Convaincu que, effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Le jour d'après, à 4 heures, je me lève et je prie. Convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a permis de comprendre un jour, en me ramenant à la réalité, que c'était totalement erroné. Je pensais qu'en faisant cela, ma journée se passerait bien et que je serais en quelque sorte intouchable. Eh bien, Dieu m'a ramené à la réalité. Il y avait du plus. J'avais l'impression d'être plus consacré. Et j'ai oublié Christ dans l'histoire. J'ai oublié que Christ seul est suffisant pour me rapprocher de Dieu. Je vais conclure, je pense que j'ai été déjà assez long. Si on suit la logique de Paul, si on suit la logique de ce que le Seigneur veut nous dire cet après-midi, marchez en lui. Marchez en Christ. Enracinez-vous en lui. Soyez fondés en lui. Affermis dans la foi qui vous a été enseignée et qui est contenue dans la parole. C'est-à-dire, passez du temps à lire la parole, à mieux connaître Christ de cette manière-là. Il n'y a pas d'autre moyen. De cette manière-là, qu'est-ce qui arrive ? Je suis débordant de reconnaissance. Tous les jours, j'ai envie de remercier le Seigneur parce que je comprends les vérités qui me concernent. Et de cette manière-là, en plus, parce que je marche en lui, eh bien, je ne suis pas vulnérable face à des enseignements qui me promettent plus. Je n'ai pas besoin de plus. En Christ, j'ai tout déjà. Je n'ai pas besoin que tu me proposes un programme spirituel en 3 étapes. J'ai Christ déjà. Et pourtant, on a beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications qui circulent sur Internet et qui vont dans ce sens-là. Croître spirituellement en 7 étapes. J'ai Christ déjà. Et c'est lui qui va me faire grandir. si je suis ancré en lui, si je suis enraciné en lui. C'est sûr que si je m'écarte de lui, alors là, je suis perdu. Comprenez bien que pour grandir spirituellement, vous n'avez besoin que d'une seule personne, Christ. Vous n'avez même pas besoin de votre pasteur pour ça. Et ce qui est bien, c'est que Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions aller à la rencontre de Christ. Parce que dans la parole, c'est là que vous trouvez précisément Christ. Tel qu'il est vraiment, pas tel qu'on l'imagine. Ce n'est pas le petit Jésus dans la crèche. Relisez la Bible pour connaître Jésus tel qu'il est, pas celui qu'on imagine. Et je peux vous assurer que quand on ne lit pas assez la Bible, on imagine un Jésus. On regarde The Chosen et on imagine Jésus, il est comme ça, disait la Bible. Prions ensemble. Et avant que je puisse prier, j'aimerais simplement vous donner l'occasion de répondre à Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il attend aussi une réponse de notre part. Et par rapport à tout ce que j'ai pu dire, et peut-être que j'ai dit énormément de choses, par rapport à ce que vous avez pu retenir, donnez une réponse à Dieu. Notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole et te rendre grâce, Seigneur, parce que en comprenant toujours mieux les vérités qui nous concernent, nous ne pouvons qu'être reconnaissants en considérant que en Christ, eh bien oui, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes comblés. Il ne nous manque rien. Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. Christ a déjà tout. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Où est-ce que nous devrions encore chercher? Seigneur, convainc-nous que Christ est la seule personne qui nous suffit pour pouvoir nous approcher de toi. Le seul médiateur suffisant. Et merci pour ce qu'il a fait. Parce que effectivement, son sang efface nos péchés. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que cette nouvelle vie, nous apprenons à la vivre avec les instructions de ta parole, en comprenant toujours mieux ce que tu as inspiré aux auteurs bibliques. Et nous te demandons, Seigneur, oui, continue de nous nourrir par ta parole. Continue de nous affermir dans ces vérités, de telle sorte que l'on ne se laisse pas influencer par n'importe quel enseignement qui nous promettrait plus alors que nous avons déjà tout en Christ. Nous te demandons de nous garder, Seigneur, parce que nous sommes tellement vulnérables et influençables que nous avons besoin simplement de rester fermes dans les vérités qui sont contenues dans ta parole. Et merci parce que dimanche après dimanche, on peut ouvrir cette parole et rester ancré dans ces vérités-là. Nous te bénissons encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.